En esprit et en vérité 02 Le sens du mot culte. Lorsque nous lisons le Nouveau Testament grec, nous rencontrons un certain nombre de verbes ou de substantifs qui, tous, sont liés au concept de culte, d'adoration. Il est important d'avoir à l'esprit le sens précis de tous ces termes et la façon dont ils sont employés dans l'original. 7. Se prosterner, proskunoa, ce verbe est employé 59 fois dans le Nouveau Testament, et 90 fois dans la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament. B. En grec classique, proskuno décrit l'adoration envers les divinités païennes, Eschyle, Père 499, Sophocle, Oed, Col 1654. Il signifie se jeter face contre terre, pour certains étymologistes kuno est de même origine que l'allemand kus, embrasser, voir quittel, Theological Dictionary of the New Testament vol. VI page 759. C. Proskuno signifie, plus généralement, se courber, s'incliner, se prosterner. Chez les tragédiens grecs, ce verbe décrit aussi une prosternation de la pensée et du cœur, Sophocle, Phil 656f. Dans la Septante, proskuno traduit deux mots hébreux qui signifient s'incliner, se courber, ishtawa, verboitpael, etsagadousoji. Dans le texte de l'Ancien Testament, ces verbes s'accompagnent d'expressions qui en précisent encore le sens, en terre, Genèse 18, 2, 24h25, ou face contre terre, Genèse 19, 1. Dans l'Ancien Testament, en l'occurrence dans la Septante, le verbe proskuno n'a pas dans tous les cas un sens religieux, il décrit parfois une simple marque de respect ou de soumission envers des supérieurs, hommes ou anges, 1 Samuel 24, 9, 1 Roi 1h16, 23, 31, 28, 14, 2 Rois 2h15, etc. D. Celui ou celle qui se prosterne devant l'Éternel reconnaît, ce, 6, faisant, la supériorité de la nature divine. Dans le Nouveau Testament, proskuno prend un sens exclusivement religieux et n'est plus une simple marque de respect envers un personnage supérieur, homme ou ange. C'est ainsi, par exemple, que l'apôtre Pierre relève Corneille qui se prosternait, proskuno, devant lui, et qu'il lui dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme », Actes 10h25. À deux reprises un ange de Dieu reprit l'apôtre Jean qui se prosternait, proskuno, devant lui, et dit, « Garde-toi de le faire. J'y adore Dieu. » Ce qui pourrait être traduit, « Garde-toi de le faire, prosterne-toi devant Dieu », Apocalypse 19h10, 22, 8, 9. Seul Dieu mérite d'être adoré, ainsi qu'en témoigne la réponse de Jésus destinée à Satan, il est écrit, « Tu adoreras, proskuno, le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Luc 4, 8. On peut ajouter néanmoins que Jésus accepta d'être ainsi adoré et que ceci constitue une preuve de sa divinité. Les anges eux-mêmes se prosternent devant le Fils de Dieu, Hébreux 1, 5 à 14. Eux, proskuno, en esprit et en vérité. De tous les termes que le Nouveau Testament emploie pour parler d'adoration, proskuno est le plus courant. On le retrouve notamment dans le discours à la femme samaritaine où Jésus définit en quoi consiste une adoration agréable à Dieu. Nous citons ce texte avec la forme du verbe proskuno chaque fois qu'il est employé, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré, proskunosan, sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, autopopou proskunin dei, est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, proskunoset toi patrie. Vous adorez, proskunette, ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, proskunouman, ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront, ô, aletinois proskunete proskunezouzin, le Père en esprit et en vérité, en pneumatica ielta, car ce sont de tels adorateurs, proskununta, que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Caitou proskununta en pneumatique a ielta dei proskunin. Jean 4h19-24. Les Juifs disaient que l'endroit où il faut adorer est Jérusalem, confère Actes 8h27-28. Comme devait le faire plus tard l'apôtre Paul, Jésus confirme la place et les privilèges des Juifs dans le plan divin de la rédemption, car le salut vient des Juifs, mais il montre que quelque chose est dorénavant modifié, qu'avec sa venue la vraie adoration ne sera plus, comme dans le passé, circonscrite à Jérusalem car elle se fera alors en esprit et en vérité. Voici le lieu de l'adoration sous la Nouvelle Alliance. Il n'y a plus d'endroit géographique, c'est l'état spirituel seul qui compte. Et il s'agit pour Jésus d'une nécessité spirituelle, il dit, en effet, il faut que ceux qui l'adorent. Dieu veut des adorateurs véritables, traduit vrais adorateurs par second, alethinoi proskunete, c'est-à-dire des adorateurs qui se prosternent en esprit devant l'Éternel, des adorateurs qui s'inclinent intérieurement devant la majesté divine. C'est d'ailleurs le sens original de proskuno. L'adoration, indépendamment du lieu où nous nous trouvons, consiste à se plier devant la supériorité divine. Pour adorer Dieu véritablement, il faut s'incliner, s'abaisser, s'humilier devant le Père. Cela peut se faire n'importe où car le temple de Dieu n'est plus, dans la Nouvelle Alliance, à Jérusalem. Ce temple de Dieu, c'est chaque enfant de Dieu, chaque assemblée des enfants de Dieu. Dans les textes suivants, on peut, en effet, comprendre l'enseignement de Paul sur ce point comme ayant traitant à l'individu qu'à la collectivité. 1 Corinthiens 3h16, 17. 6h19, 26. 2 Corinthiens 6h14, 18. Ainsi, sans l'accomplissement de la toute première béatitude, il ne peut y avoir de vraie adoration ni de vrais adorateurs. 2. Servir, latreo est employé 21 fois dans le Nouveau Testament. On trouve le substantif latrea 5 fois. Ce mot est fréquent dans la Septante, 90 fois environ, où il traduit l'hébreu abba qui signifie servir, dans un sens général, ce peut être un bon ou un mauvais service, fait envers Dieu, des hommes ou des idoles. R.C. Tranche fait remarquer que latrea est plutôt un service en vue d'un salaire ou un service volontaire, alors que douléa est le service obligatoire de l'esclave, R.C. Tranche, synonyme of the New Testament, page 125. Pour Augustin, le latin cultu ne peut rendre le sens exact du grec latrea, S. Augustin, con. Faust 3xx, 21. B. Latreo, c'est donc servir Dieu d'une manière générale. Ce mot, contrairement à son synonyme léturgio, n'est pas rattaché à des ministères, à des services particuliers. Dans la Septante, latreo décrit donc ce service envers Dieu qui est la responsabilité de tout homme. Ainsi, ceux qui font partie du peuple de Dieu ne sont pas tous appelés à certains services, ou ministères, mais ils sont tous, par contre, appelés à servir l'Éternel d'une manière ou d'une autre, d'une manière générale. La Septante fait ressortir cette distinction en utilisant latreo lorsque le peuple d'Israël tout entier est concerné par un ministère à accomplir, Exode 4h23, Deutéronome 10h12, Josué 24h31, Confère, Matthieu 4h10, Actes 7, 7, Hébreux midi 28. De même, l'apôtre Paul écrit que le culte, latrea, appartient à tous les Israélites, Romains 9, 3, alors que certains ministères spécifiques n'étaient pas du ressort de tous les Israélites. C. Latreo et proskuno, ces deux verbes, qui décrivent chacun un aspect de l'adoration, sont souvent liés dans le texte biblique. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous lisons que le fait de se prosterner devant les étoiles constitue un culte, service, qu'on rend à l'armée des cieux, Deutéronome 4h19. 5h19. Un texte du Nouveau Testament montre aussi ce lien entre les deux concepts, se prosterner, servir, est écrit, tu adoreras, proskunoze, le Seigneur, ton Dieu, et, à lui seul tu rendras un culte, latreuze. Luc 4, 8, Deutéronome 6h13. Celui donc qui s'incline, qui se prosterne devant une idole, du même coup, disposé à la servir, il en va de même pour l'adoration rendue à Dieu. Lorsqu'un homme est disposé à s'incliner devant l'Éternel, il sera, du même coup, disposé à le servir. Sans humilité, il n'y a pas de service, donc pas de culte. D. Dans la Nouvelle Alliance, le service à Dieu se fait par l'Esprit de Dieu, ainsi, le chrétien n'est pas en mesure de mettre sa confiance en la chair, Philippiens 3, 3. C'est un service qui a son origine dans la foi en Christ et dans une communion à ses souffrances et à sa mort, Philippiens 3, 4 à 11, Confère Colossiens 3, 1 à 11, Galates 2h20, 6h15, Romains 6, 3 à 23. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour pouvoir rendre un culte par l'Esprit de Dieu, Éphésiens 5h18, Romains 8h14. Le corps peut devenir l'instrument de ce service, ou culte, si, toutefois, nous ne vivons pas selon la chair mais selon l'Esprit, si, par l'Esprit, nous faisons mourir les actions du corps, Romains 12, 1, 2, 8h12, 13, Jacques 2h27. Celui qui sert, d'où le 1, Christ en ayant la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit est agréable à Dieu et approuvé des hommes, Romains 14h17, 18. On peut inclure dans le service, ou culte, à Dieu celui qui est décrit par le verbe d'où le 1 que nous trouvons, notamment, en Romains 6h15-21 et qui décrit le service de l'esclave. Car adorer Dieu c'est aussi le prendre pour seul maître, voir Matthieu 6h24, Romains 6, 6, midi 12, Colossiens 3h23, 24, 1 Thessaloniciens 1, 9, Éphésiens 6, 6. 3. Servir, dans un sens spécifique, liturgoa, le verbe liturgo, servir, est employé 15 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie servir publiquement. Il décrit, en grec classique, tout service que l'on accomplit pour la cité ou pour la nation, quitte-elle, vole. IV, page 216. B, dans la Septante on trouve liturgo environ 100 fois. En général il traduit l'hébreu sheret quand il faut l'entendre dans un sens religieux, sheret est le plus souvent appliqué au service des prêtres dans le tabernacle ou dans le temple, nombre 8h22, 16, 9, 18h21, 23, Exode 28, 35, 35, 19, nombre 3h31, 4, 3, Deutéronome 10, 8, 2 Rois 25, 14, Jérémie 52, 8, Ézéchiel 42, 14. 44, 17. D'autres cas où sheret est employé dans le texte, Genèse 40, 4, Ésaïe 60, 10. Le substantif liturgia, d'où nous avons le français liturgie, est généralement appliqué, dans la Septante, au service des Lévites dans le sanctuaire, il traduit l'hébreu aboda, nombre 16h19, 18, 4, 6. 1 Chronique 9h13, 29. 2 Chroniques 31, 4. 35, 16. Dans la Septante liturgo et liturgia sont donc des termes techniques qui décrivent le travail des prêtres, on peut noter que liturgia est traduit une seule fois par culte chez second, et cela en hébreu 9h21. C'est, liturgo, c'est donc servir Dieu publiquement, ce service public constitue un culte à Dieu. On peut en noter plusieurs cas dans le Nouveau Testament, I Actes 13, 1, 2. Les cinq docteurs et prophètes servaient, liturgonton, le Seigneur par le jeûne, par la prière et en remplissant leur ministère respectif. Ce service était en rapport avec la vie de l'Église d'Antioche ainsi que le montre le contexte. 2. Romains 15h27. 2 Corinthiens 9h12. La collecte en faveur des saints est un service, liturgia, tant à l'égard de l'Église qu'à l'égard de Dieu. Romains 15h16. Celui qui annonce l'Évangile accompli, se faisant, un service pour Dieu, confère Romains 15h16. 1 Corinthiens 9h13, 14. 10. Le service de l'évangéliste, nous dit Paul, est un travail au même titre que le travail, ergazomenois, effectué par les prêtres de l'ancienne alliance, et Dieu a ordonné que celui qui accomplit un tel travail puisse en vivre. IV. Le travail de l'évêque est décrit, dans l'Église primitive, comme un service public qu'il rend à l'Église locale, l'un, depuis 12 ans évêque de l'Église des Romains, laisse sa charge, liturgia, à Anaclet Eusèbe, Histoire ecclésiastique 111, 13 confère 1 Timothée 3, 1 où le travail de l'évêque est une charge et une belle tâche, calon ergon, un beau travail. D. Le service de Christ est contrasté à celui des prêtres de l'ancienne alliance. Pour ces derniers, le culte, service, consistait à offrir des sacrifices d'animaux, alors que Christ s'est offert lui-même, Hébreux 10h11, 12, 8, 6, 4. Autre terme lié au concept de culte dans le Nouveau Testament, la vénération, Tresca a traduit religion culte par second, Tresca a décrit plutôt l'aspect cérémonial, rituel ou extérieur de la religion par lequel les hommes démontrent une vénération pour Dieu, R.C. Tranche, Synonym of the New Testament, page 175. Ce terme n'est employé que deux fois dans le Nouveau Testament pour parler du culte chrétien, et ce par Jacques, si quelqu'un croit être religieux, Tresco, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion, Tresca, de cet homme est vaine. La religion, Tresca, pure et sans tâche, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1h26, 27, confère. Michée 6, 7, 8, B, la crainte, Eulabéa traduit piété ou crainte par second, Eulabéa décrit le respect et la crainte à l'égard du Tout-Puissant. Ce mot s'applique à ceux qui, par crainte de l'Éternel, se soucient d'être fidèles à ses prescriptions, confère Luc 1, 6. Tranche fait remarquer que sans une volonté d'être fidèle au Seigneur dans ses prescriptions, il ne peut y avoir de culte acceptable à Dieu, R.C. Tranche, page 174. Avoir de la piété, Eulabéa, c'est chercher à adorer Dieu en se conformant à sa volonté. Adorer Dieu en se fiant ou en se référant à des préceptes humains, c'est démontrer une incapacité à lui rendre un culte qui lui soit agréable, confère Marc 7, 6 à 13. On trouve le substantif Eulabéa en Hébreux 5, 7 et midi 28. Dans le second passage, nous apprenons qu'un culte, latreo, se voulant agréable à Dieu doit être rendu avec piété, eulabéa, et avec crainte, car Dieu est aussi un feu dévorant. Le contexte montre qu'il faut rendre à Dieu un culte qui soit conforme à sa parole. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle. Hébreux midi 25. En Hébreux 5, c'est la piété, eulabéa, de Jésus fut cause de son obéissance à Dieu. Nous devons à notre tour, ajoute l'épistolier, obéir à notre souverain sacrificateur pour pouvoir bénéficier du salut. Hébreux 5, 8. C'est cette crainte de l'Éternel qui poussa Noé à construire une arche par la foi. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, eulabéa, construisit une arche pour sauver sa famille. Hébreux 11, 7, celui qui est baptisé pour être sauvé agit comme Noé, il est, lui aussi, saisi d'une pieuse crainte, 1 Pierre 3h21. Les Juifs qui, en Actes 2, obéirent, le jour même, à l'injonction de se repentir et d'être baptisés étaient tous des Juifs pieux, eulab, Actes 2, 5. C'est, la piété, eusebéa, se baumer, se basomer. Eusebéa est un synonyme du mot précédent et signifie piété, crainte, respect de Dieu, Monsieur Carré. Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, page 108. C'est ce mot qu'emploient les traducteurs de la Septante en Proverbe 1, 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Tout en ne connaissant pas le Dieu d'Israël, les Athéniens éprouvaient cette crainte. Ils l'éprouvaient envers un Dieu qui leur était inconnu, Actes 17h23. Le verbe eusebo est traduit par second vénéré, Corneille, lui aussi, avait cette qualité de craindre Dieu, Actes 10, 2. Eusebéa est employé dans les épîtres à Timothée pour décrire une qualité indispensable de l'évangéliste et de l'enseignement qu'il dispense, confère 1 Timothée 6, 3. Le verbe se baumer décrit aussi la crainte respectueuse de Dieu par laquelle nous le vénérons et l'honorons. Lydie est décrite, Actes 16h14. Par ce terme, littéralement, Lydie était une craignante de Dieu, se baume tonton. Cette femme, parce qu'elle craignait Dieu, était disposée à accepter les paroles de Paul et à se faire baptiser, et laisser sa maison, Actes 16h15. Les prosélytes sont souvent décrits par ce terme dans le Nouveau Testament. Voir l'appendice, emploi du mot culte dans le Nouveau Testament, dans l'Écriture il est aussi question d'une crainte de Dieu, ou vénération, culte, adoration, qui est vaine et inutile. On le voit, par exemple, dans la célèbre controverse de Jésus avec les pharisiens au sujet de la tradition, Matthieu 15, 9 et Marc 7, 7. Jésus déclare aux pharisiens que leur culte, se baumer, est vain, m'attend, sans résultat, parce qu'ils enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Et, conformément à la prophétie d'Ésaïe, ils enseignent des préceptes humains parce que leur cœur est éloigné de Dieu, Matthieu 15, 8 et Ésaïe 29, 13. Par leur attachement aux traditions humaines, celles de leur père, les pharisiens, A, transgressent le commandement de Dieu, B, annulent la parole de Dieu, C, adorent, vénèrent Dieu en vain, Matthieu 15, 3, 6, 9. En d'autres termes, l'adoration étant une démonstration de notre crainte de l'Éternel, comment peut-elle être sincère et comment peut-elle aboutir si nous annulons les commandements divins par des traditions humaines? Encore une fois, le culte est une question d'obéissance. On craint l'Éternel véritablement lorsqu'on respecte sa volonté. D. Le sacrifice, ou l'offrande, tusia, prosphora tusia est employé 23 fois dans le Nouveau Testament et c'est un mot très courant de la Septante, de Genèse 4, 3 à Malachie 3, 3,4. Le mot sacrifice est présent à travers la totalité du canon de la Bible hébraïque. En Malachie 3, 3, 4, le prophète annonce les temps messianiques où l'offrande, ou sacrifice, de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Dans le contexte, l'offrande du peuple de Dieu sera, à la venue du Messie, agréable à Dieu parce que le peuple lui-même aura été purifié et épuré en vertu de l'œuvre du Messie et des promesses de la Nouvelle Alliance. En Hébreux 11, 4, Abel fut déclaré juste car son offrande, tusia, se fit par la foi. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est composé de sacrificateurs, ou prêtres, hiereux, qui offrent des sacrifices à l'Éternel, confère 1 Pierre 2, 5, Apocalypse 1, 6, 5, 9, 20, 6. Les sacrifices, ou offrandes, qu'offre le chrétien ne sont pas des sacrifices sanglants car ils n'ont pas pour but d'obtenir l'expiation des péchés, confère Hébreux 9h22. Le sang du Christ fut répandu une fois pour toutes à cet effet et il n'y a plus d'offrande pour le péché, Hébreux 10, 4, 5, 14, 18, dans ces versets, l'auteur emploie deux mots synonymes, tusia et prosphora. Il n'y a donc plus d'offrande pour les péchés, Hébreux 10h18, mais il y a toujours des offrandes. Et ces offrandes sont d'abord les personnes elles-mêmes qui se donnent entièrement à Dieu, afin que les païens lui soient une offrande, prosphora, agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Romains 15:16. Les sacrifices, ou offrandes, de la nouvelle alliance peuvent être comparés aux sacrifices d'action de grâce sous l'ancienne alliance. Ils sont l'expression de notre reconnaissance envers Dieu le Sauveur de son peuple, et ils sont faits d'une manière toute volontaire. Paul souligne ce fait en Romains 12, 1, où il écrit « Eux vous exhortent donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, thusia, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, latréa, raisonnable. » Ici, il n'est pas question de devenir des martyrs. C'est un corps vivant qu'il faut offrir, c'est-à-dire notre vie dans toutes ses activités. L'épistolier aux Hébreux, qui parle tant des sacrifices sanglants de l'ancienne alliance, contraste ces derniers aux sacrifices de la nouvelle alliance qui sont, entre autres, la louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, la libéralité et la bienfaisance. Hébreux 13, 8, 15, 16. Les Philippiens soutenaient Paul dans son œuvre d'évangélisation et l'apôtre leur écrit que cette assistance constitue un parfum de bonne odeur, un sacrifice, thusia, que Dieu accepte, et qui lui est agréable. Philippiens 4, 8. Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont étroitement liés à notre comportement envers autrui, donc au suprême commandement de l'amour, Conféramo 4, 4. 5h21 SS. Ainsi, l'exercice de la miséricorde est supérieur à n'importe quel sacrifice, même les sacrifices chrétiens tels qu'ils sont définis en Hébreux 13, 8, 15, 16 ou Philippiens 4, 8, voire Matthieu 9:13. 12, 7. Nous avons été appelés à la lumière, nos sacrifices doivent être conformes à cet appel, c'est-à-dire qu'ils doivent être des sacrifices spirituels, 1 Pierre 2, 4 à 9. 14. Conclusion de tous les termes qu'emploie le Nouveau Testament pour décrire la réalité du culte, deux thèmes ressortent, le thème de la soumission, ou de l'obéissance, et le thème du service. Proskuno, c'est se prosterner, s'abaisser devant la majesté divine. Latroeo, c'est servir l'Éternel et lui seul. Liturgio, c'est servir l'Éternel en accomplissant les tâches qui nous sont respectivement dévolues en cette vie et au sein de l'Église. Treskea, c'est l'expression de notre hommage, de notre vénération. Eulabea, Eusebea, ce beau mot décrive la crainte respectueuse de Dieu qui engendre la conformité à ses commandements. Thusia, c'est l'offrande à Dieu de toute notre vie, de notre corps et de notre esprit. Prenons note que tous ces termes sont aussi appliqués à la fausse adoration. Certains se prosternent devant de faux dieux, servent de faux dieux, vénèrent les anges, Colossiens 2:18, Romains 1:25. On peut vénérer Dieu, mais en vain, Matthieu 15, 9. On peut être pieux, servir Dieu, tout en persécutant le peuple de Dieu, Actes 13:50, Jean 16, 2. On peut être pieux tout en étant perdu, Actes 10, 2. 11:14, 2, 5. On peut considérer la piété comme une source de gain ou n'avoir de la piété qu'une forme extérieure, 1 Timothée 6, 5. 2 Timothée 3, 5. Nous devons donc être attentifs non seulement au sens du mot culte mais aussi à son contenu spirituel. C'est ce contenu spirituel du culte que nous voulons rappeler dans les chapitres qui suivent.